Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. Alors ce soir, nous allons avec Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre tirer le fil d'une histoire qui a brièvement fait son apparition dans le ciel médiatique. Une histoire qui, en raison d'un entrefilé dans Le Parisien, a ému un journaliste, grand reporter au Monde. Son enquête a fait la lumière sur une série d'engagements humains ayant permis d'écrire autrement un drame contemporain. Savez-vous, Hervé, comment on reconnaît le degré de civilisation d'une société ?
Eh bien, par exemple, à la façon dont elle traite ses vieillards et ses morts.
Oui, Hervé, c'est précisément ce qui, dans ce documentaire, trace la frontière entre l'absurde et l'humanité. La tentation d'abandonner un corps à une sépulture commune s'est transformée en acte de dignité et de mémoire. Nous partons pour Mauregard, à environ 25 km de Paris, non loin du canton de Dammartin, en Goële.
Alors, où est la tombe ?
Elle est là.
Inconnu sauf de Dieu. X masculin, 130824. C'est son numéro d'inconnu. Voilà, c'est sa seule identification. On ne sait pas qui c'est.
Mort de quelqu'un. Retour sur le décès oublié d'un jeune migrant. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre.
Sous le couloir aérien de Roissy, l'enterrement de X masculin numéro 13/0824. Quelqu'un, un être humain, a été enterré mardi 30 avril à Mauregard, Seine-et-Marne, une commune de 350 habitants jouxtant les pistes de Roissy. Il a été porté en terre dans un joli cercueil en chêne vernissé, avec d'élégantes poignées en cuivre.
À droite de la tombe, c'est un caveau familial d'une famille de Mauregard.
Oui. Bah, y a plus beaucoup de survivants. C'était un frère et une sœur, donc à mon avis, il n'y a plus personne.
Et à gauche, un poilu mort de la...
Voilà. Et sa famille, je pense que déjà née, il n'y en a plus non plus à Mauregard. Les enfants sont partis, ils habitent ailleurs.
Il repose désormais entre la tombe d'un poilu mort pour la patrie en 1916 et un caveau de famille.
Et là, c'est ma belle-sœur, vous voyez. Et mes parents sont là-bas. Mon papa est là-bas, enfin ma famille.
Le cimetière est intime, propre, très bien entretenu. Une jolie sépulture a été commandée. Il ne manquera rien à ce mort. Juste un nom sur la stèle. Peut-être aussi le calme. Le cimetière de Mauregard est survolé en continu par les avions qui atterrissent ou décollent selon le sens du vent. C'est à bord de l'un d'eux, qui est venu du Cameroun, cet inconnu, il y a 3 semaines.
Marion Blancard, il y a un avion qui survole Mauregard tous les combien ?
Bah vous avez compté, là. C'est impressionnant, ça dépend des jours. Je les entends plus. Hein. Sauf quand je dors la nuit et que là, à ce rythme-là, on les entend pas. Vous les entendez, vous, Christian ?
On n'y fait pas attention.
On n'y fait plus attention. En revanche, quelquefois la nuit, quand ils sont... En fait, ils font beaucoup de bruit quand ils sont au point mort, prêts à décoller, et que le vent est là. Alors là, ça fait... Et là, vous êtes réveillés. Mais sinon, bah, on vit avec.
X masculin, numéro 13/0824. On ne sait pas qui c'est, quoi. C'est inconnu, on ne sait pas qui c'est. Vous savez qui c'est ? Non. Bon, on ne sait pas qui c'est. Donc, ce type-là, c'est un migrant... migrant X, quoi. C'est terrible, quoi, de s'appeler X. Mais bon... Mais moi, je sais pas si ça me renvoie, je ne vais pas parler de ça, mais c'est vrai que des gens qui sont morts sans sépulture ou alors une sépulture sommaire, je viens d'un peuple, je suis d'origine arménienne, donc je sais ce que c'est. Enfin, en tout cas, dans mon histoire personnelle, je sais ce que c'est. Donc, c'est vrai que c'est frappant. Voilà. Donc, je le remarque. Lui, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas vu mourir devant moi, si vous voulez. J'en ai vu des gens mourir devant moi, mais pas lui. Donc, tout ça est quand même un peu abstrait. Vous voyez, donc, m'émouvoir pour lui, non. Alors, c'est vrai qu'à la fin, il me semble... Je ne suis pas sûr que j'ai eu une pensée pour lui, mais non pas pendant le reportage, honnêtement.
Il espérait une vie nouvelle en France. Il n'aura même pas vu ce pays dont il rêvait. Son corps pétrifié a été découvert dans le train d'atterrissage d'un appareil de Camerco le matin du 8 avril.
Qu'est-ce que ça vous a fait d'ouvrir Le Monde du 2 mai 2013 et de vous voir en photo ?
Ben, ça m'a fait drôle, mais heureusement, il me l'avait envoyé, M. Hopkin, tout de suite. Mais j'ai trouvé c'était quand même presque une pleine page et c'était assez impressionnant quand même.
Patrick Artignan, le 30 avril 2013, vous êtes à Mauregard, dans le cimetière de Mauregard, avec notamment Benoît Hopquin du Monde. Comment est-ce que vous êtes retrouvé sur cette histoire de ce migrant enterré ce jour-là?
On m'a appelé, on m'a dit, bon, est-ce que tu veux faire ça? Je dis oui, je suis allé. Donc j'ai rejoint Hopquin là-bas sur place. Et on est allé d'abord à la mairie. On est allé voir la maire.
Je me demande s'il n'est pas là, le dossier.
Oui, c'était un dossier relié.
Relié?
Oui, je vais faire un boulot là, je crois.
Pardon? Ah, tu l'avais relié?
Oui.
Et là aussi, t'as regardé?
Là, non.
Oh, c'est super.
Vous avez imprimé quand même?
Oui, je sais, mais c'est quand même curieux. Ça se trouve, c'est dans mon bureau.
C'est loin, le cimetière ?
Non, je vous emmène en 2 minutes. Alors.
Marion Blanca, un mot quand même. Ici, on est où ?
Mairie de Mauregard. Alors, le village, proximité d'aéroport Charles de Gaulle. Donc, nuisance, de bruit, mais des sous. Donc on est une commune riche, bah vous le voyez, à l'extérieur c'est joli. Ça ressemble pas aux petits villages ruraux, même vous allez à Épiel-et-Louvre, c'est plus du tout le même style, c'est joli, mais c'est moins riche, quoi. Alors c'est pour ça qu'avec 350 habitants, on a une grande mairie, 4 secrétaires de mairie, personnel communal, 15 personnes, c'est ça ?
15.
Et vous, Marion Blanquer, vous êtes maire de ce village depuis quand ?
Depuis 2010, Marie-Hélène ? 2010, depuis le décès de mon prédécesseur. Et mon père a été maire pendant 42 ans, et mon grand-père a été maire pendant X années également. Mauregard, à la base, c'était un village rural. L'agriculteur, c'était vraiment le pourvoyeur d'emplois. À l'époque, c'était l'influence du village, qui n'est plus le cas maintenant. Hein. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus que 2 salariés, dont mon fils.
Enfin, donc, vous êtes maire, mais ça ne remplit pas votre emploi du temps?
Non. Pas du tout.
Qu'est-ce que vous faites à côté ?
Eh ben, à côté, je suis donc agricultrice. Et puis là, récemment, on s'est lancé dans une aventure familiale. On a ouvert un hôtel, là, qui est à côté de l'église. Et donc, au lieu de prendre ma retraite, à bientôt 61 ans, ben, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Voilà. On y va.
Je crois que j'ai rien de spécial à dire là-dessus. Je ne sais pas trop.
Hop. Je prends mon manteau parce qu'il fait froid.
Mais après, c'est clair que la mère allait aux obsèques parce qu'on était là, quoi. Parce que sinon, c'était des obsèques, il n'y avait que des gens de service funéraire.
Donc, vous voyez, bah, Mauregard, ici, on a un... ça, il y a la salle omnisport, la salle du troisième âge, il y a des bureaux au-dessus. C'est là qu'a lieu la garderie des enfants, dans la petite salle en bas.
Voilà, quoi. Donc, il y avait la mère, puis le secrétaire de mairie, puis nous, et puis des services funéraires. C'est une ambiance un peu étrange.
À l'époque où l'aéroport s'est installé à côté de Mauregard, très vite la manne est tombée et mon père, quand il était maire, ses copains, ils l'appelaient l'émir dans le coin.
Donc vous êtes la fille de l'émir ?
Je suis la fille de l'émir. Voilà notre petit cimetière.
J'entends un peu comme ça, il faisait un peu plus froid, il me semble qu'il faisait assez froid. Et les arbres, je me souviens, même ça, je le reverrai, mais étaient décharnés. Et puis il n'y avait personne dans le cimetière, quoi. Et alors, moi, mon but, c'était d'essayer de rendre le tragique de la chose, c'était pour moi, c'était pas possible. Enfin, je voyais pas comment je pouvais faire. Donc le but, c'était essayer d'être le plus informatif possible et de rappeler dans la photo, en gros, pour faire court, c'était de montrer, d'essayer de montrer un avion dans la photo. Mais l'avion était tellement petit que je pense qu'on ne le voyait pas.
Le vol QC-102 de la compagnie camerounaise venait d'arriver de Douala via Yaoundé. Un inspecteur effectuait un contrôle de routine sur le Boeing 767. Il a découvert le mort, son maître 75 recroquevillé dans l'étroite soute. L'enquête a été confiée à la gendarmerie des transports aériens, plus précisément à la cellule d'investigation criminelle aéronautique de la section de recherche. En vain. Le mort n'avait sur lui aucun élément d'identification, aucune adresse, pas même un mot pour expliquer ses intentions, expliquent les enquêteurs. Nous avons pris ses empreintes digitales, relevé son ADN, mais il n'était pas inscrit dans nos fichiers.
Christian Percha, vous êtes l'ancien directeur commercial de la Camerco. Qui vous alerte de ce qui se passe sur la piste de Roissy ce jour du 8 avril 2013 ?
Bien, comme dans toutes les compagnies normalement constituées, on a un poste de contrôle opérationnel. Donc c'est une salle où il y a un certain nombre de personnes qui gèrent et qui surveillent la flotte, tout ce qui se passe dans la flotte, quel que soit l'endroit où les avions sont positionnés. Et effectivement, je reçois un appel en disant on a un problème à Roissy avec une personne qu'on a retrouvée dans le train d'atterrissage. Et évidemment, ça a des conséquences sur l'exploitation, parce que l'avion doit être immobilisé. Alors d'une part parce qu'il y a tous les services de police, de douane, toute l'administration qui vient s'occuper de cette affaire, puisque le pauvre garçon qu'on retrouve n'a pas de papier d'identité, on ne sait pas qui il est. Et puis d'autre part, il y a un autre problème, c'est que la porte du train d'atterrissage est faussée, en fait. Et sur les photos qu'on a vues, qui étaient assez impressionnantes, il y avait le pied de ce pauvre garçon qui dépassait, gonflé et tout, et qui avait aussi déformé la trappe. Donc il fallait aussi réparer. Donc l'avion a été immobilisé pendant 3 jours, et il fallait trouver une solution d'acheminement pour les passagers qui étaient de fait bloqués. Et la deuxième chose, il fallait communiquer. Donc on a organisé une conférence de presse à Douala, pour les médias camerounais. Voilà.
Nous nous en sommes émus, bien évidemment. Et déjà, et qui plus est, nous les Camerounais. Et j'ajoute encore que moi, qui suis président d'une association de la diaspora camerounaise de France, vous comprenez que j'étais abasourdi. Et donc, tout de suite, j'ai mobilisé mes camarades, mon état-major, pour qu'on essaye, n'est-ce pas, de tirer la situation au clair.
On ne sait donc rien de lui, de sa vie, ni des circonstances qui lui ont permis de s'immiscer dans l'avion. On suppose que le clandestin se serait introduit dans la soute du train d'atterrissage pendant l'escale à Yaoundé.
Les services de sécurité de la compagnie ont tenté de donner une explication. Comme quoi ce garçon serait monté à Yaoundé au moment où l'avion faisait son point fixe, où s'était arrêté pour prendre la piste. On n'a pas vu quoi que ce soit sur les caméras de surveillance, sur la vidéosurveillance. Alors la vidéosurveillance, il y en avait à Douala, à la porte. Il n'y en avait pas à la maintenance, hein, quand l'avion sort et positionné sur les gates, sur les portes où les passagers embarquent. Donc là, on n'a rien vu à Douala. On n'a rien vu à Yaoundé non plus, où l'avion est surveillé là de tous les côtés par les caméras de surveillance. Et l'explication qui a été donnée à ce moment-là, c'est que l'avion se serait arrêté et que ce garçon aurait embarqué, se serait hissé à un moment où l'avion allait prendre son envol, juste au moment où il s'arrête. Ce qui est un petit peu, perturbant, c'est qu'en fait, l'avion ne s'arrête plus. Les avions ne font plus de point fixe, ça n'existe plus. Donc, dès qu'ils ont l'autorisation de décoller, ils prennent le virage et ils sont en mouvement. Voilà. Mais il est possible que l'avion se soit tout de même arrêté pour laisser passer ou pour attendre un décollage ou un atterrissage. Mais à cette heure-là, je ne sais pas. Par ailleurs, le vol, effectivement, venait de Douala. Alors, c'est un vol qui fait Douala, Yaoundé, Paris. Entre Douala et Yaoundé, il y a un peu plus de 200 km à vol d'oiseau. Et l'avion ne vole pas à 11 000 mètres d'altitude comme sur un vol de longue durée. Donc, il vole à peu près à 5 000 mètres. Là, les chances de survie sont quand même assez grandes parce que la température n'est pas si froide et bon, 5 000 mètres, ça reste encore acceptable.
Une autopsie réalisée par l'Institut médico-légal de Paris a permis de déterminer que la victime était mineure. Le jeune homme avait entre 15 et 17 ans. Il est mort d'asphyxie par manque d'oxygène à 9000 mètres d'altitude. Il a dû être endormi par le froid avant de mourir. Par moins 50 degrés centigrades, le corps a ensuite été gelé pendant les 7 heures de vol.
Les chances de survie sont absolument infinitésimales, compte tenu des conditions qui règnent à 11 000 mètres d'altitude, à des températures qui ne sont pas humaines, hein, qui sont à entre moins 55 et moins 60 degrés. Il n'y a aucune chance. Ça se compte sur les doigts de la main, mais c'est quand même 5, 6, 7 personnes par an qui essayent de faire la traversée, soit depuis l'Afrique, soit depuis d'autres pays, mais c'est quand même 5 ou 6 personnes qui perdent la vie chaque année dans des conditions. Ça, et c'est un chiffre très approximatif, parce que il y a des fois on s'en aperçoit pas, et que le pauvre passager tombe quelque part, et que bon, voilà.
Cela arrive une ou deux fois par an, mais cela faisait 2 ans que nous n'avions pas eu de cas, constate un gendarme. C'est évidemment de la folie de faire ça. L'issue est fatale à chaque fois, mais cela n'empêche pas les gens de tenter leur chance. En 2007, le corps d'un jeune Égyptien, Ahmed Abou Shadi, était tombé dans un jardin du Val d'Oise quand le vol d'Air France où il s'était caché avait sorti ses roues.
Il était question pour nous d'interpeller toute la communauté nationale d'abord et internationale sur le drame, n'est-ce pas, de l'immigration. Et l'immigration à tout va, périlleuse. Ce qui se décide parce que la misère, n'est-ce pas, les y a contraints à prendre des risques, on va dire des risques fous. Donc il était question de sensibiliser ceux qui seraient tentés par ce genre de démarche sur le fait que ça ne sert à rien de perdre quelque chose qu'on veut sauver. On se dit, la société nous a tout pris, la société ne prévoit plus rien pour nous, on a tout perdu, on se jette à l'eau. Mais on se jette à l'eau, la finalité c'est quoi? C'est de survivre, de sauver une vie qui est en perdition. Mais si cette vie-là, on va la perdre dans l'eau, dans les airs, alors qu'on pensait la sauver. Je pense qu'il y a quelque chose qui c'est un peu paradoxal. Donc il était question d'attirer l'attention de la jeunesse sur le fait que on ne va pas vaille que vaille, n'est-ce pas, exposer sa vie parce qu'on pense pouvoir la sauver. Donc il y a des risques à ne pas prendre. Il faut mesurer, n'est-ce pas, la part du risque qu'on prend lorsqu'on veut se sauver.
Marion Blancard, le 8 avril 2013. On retrouve mort frigorifié dans le train d'atterrissage de la Camerco, donc un avion qui a atterri à Roissy, un jeune homme. Le 30 avril 2013, il est enterré ici dans votre cimetière. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois d'avril 2013 dans votre vie et dans votre village?
Ben pour nous, rien à vrai dire, parce que c'est Monsieur Hopkin
du Monde
qui nous a téléphoné combien de temps entre les deux, entre le moment du décès et entre le moment de l'inhumation, en nous disant voilà, je sais qu'il y a un jeune homme qui a été retrouvé, etc., etc. Je cherche la commune où il va être inhumé. Quand une personne inconnue ou un indigent meurt sur une commune, la commune est dans l'obligation, quelque part, de lui offrir une sépulture.
Il a le droit à un minimum de dignité, a tout de suite estimé l'élu. La municipalité a donc ménagé une place dans le cimetière, payé les frais d'inhumation et une belle gerbe de fleurs. Marion Blancard était présente aux obsèques ce mardi, vers midi, avec une secrétaire de mairie, Edith Chalvin, et le responsable des services techniques, Christian Dossador. Un ouvrier qui réparait le mur du cimetière a respectueusement posé ses outils et s'est joint à l'assistance. Maigre cortège, mais cortège tout de même. Manière de montrer que cet anonyme méritait tout de même un hommage. Faut-il être au désespoir pour tenter un truc pareil? S'est lamenté Marion Blancard. Drôle de destin, pauvre gosse. Il faut n'avoir plus rien à perdre pour espérer que ça puisse marcher, a ajouté Edith Chalvin.
Alors qu'est-ce que ça vous a fait, vous, à Christian Dossador, vous travaillez au service technique de la ville, d'être témoin des derniers moments d'un inconnu? Parce que d'habitude, quand on se retrouve au cimetière, c'est pour enterrer quelqu'un de la famille, qu'on connaît, qu'on accompagne dans sa dernière demeure. Là, c'est un parfait inconnu. Comment vous avez vécu ce moment-là?
Ça fait toujours mal au cœur d'apprendre les circonstances du décès de ce jeune homme. En fait, on peut se mettre un petit peu à sa place et se dire que bon, il n'a pas eu la vie facile. S'il est mort dans ces conditions-là, c'est que il a tenté de faire sa vie ailleurs, quoi. Donc, forcément, ça vous met la boule au ventre, quoi, comme on dit.
Alors, le plus, c'est qu'effectivement, comme il y avait M. Hopkin qui était attaché à cette histoire, peut-être que c'est plutôt lui qui nous a, enfin, plus pas motivé, parce que nous, on l'aurait fait. Enfin, je veux dire, spontanément. On aurait fait quelque chose. Après, on en a parlé au conseil municipal, etc. Et Monsieur Hopkin est venu, et puis on a trouvé normal de venir. Enfin, Madame Chalvin, qui était chargée de l'état civil à l'époque, Monsieur de Sador, qui était des services techniques pour voir si les choses se passaient bien. Enfin, vous voyez, un ensemble de...
L'employé des pompes funèbres de Goussainville.
Oui.
Qui a dit un texte.
Oui.
Devant le cercueil, le maître de cérémonie, Bruno Ravenet, a lu un poème, choisi dans un cahier ad hoc. Une voix m'appelle, l'instant est venu, il me faut partir, je ne peux rester. Dans ce monde-là auquel j'avais cru et qui brusquement m'a abandonné, je vous laisserai mes rires, je vous laisse ma joie. Je ne vais plus souffrir, alors souriez-moi.
Oui, donc on voit, il n'y a personne, c'est ça, je me souvenais bien de ces arbres décharnés. Le cimetière qui est vide avec un cercueil au milieu, quoi. Et puis le maître de cérémonie qui est la personne des pompes funèbres, je pense. Et puis la mère et puis la secrétaire de mairie qui sont à côté, et puis voilà, c'est tout, quoi. Et puis comme l'endroit, c'est fou parce que c'est plat, mais c'est plat parce qu'il y a Roissy, c'est pour ça que Roissy est là, parce que c'est tout plat, quoi, mais... C'est, on voit à perte de vue, enfin on voit rien à perte de vue, mais on voit à perte de vue, quoi. Si on voit un avion sur ça là, c'est un peu la même situation, hein. Il n'y a pas grand chose à faire professionnellement, je dirais presque, pour le travail, c'est vite fait un peu.
Vous avez fait combien de photos?
Je ne sais pas. J'ai pas, parce que le problème, c'est que là, j'en ai gardé quoi, une dizaine en sélection, une douzaine. Ouais, j'en ai fait peut-être une centaine. Et dans la sélection finale, ce que j'ai envoyé au monde, donc voilà, il y en a 12, quoi, ou 13, il y en a, voilà, 13 photos, quoi. Mais c'est vrai que j'avais oublié celle-là. J'avais oublié ça, j'avais oublié que c'était passé, ça. Hein. X masculin.
Inconnu sauf de Dieu, voilà. On ne sait même pas s'il est réellement camerounais. C'est d'ailleurs ce qu'ont commencé à dire les autorités camerounaises. Oh, mais on ne sait pas s'il est camerounais. On ne sait pas s'il est camerounais.
Alors, ce qui est étrange, quand même, c'est que ça soit Benoît Hopkin, le journaliste du Monde, qui vous alerte, et non pas, par exemple, les gendarmes du transport aérien.
Lui, il a lu un entrefilet. Et ensuite, il a cherché à savoir...
L'entrefilet, c'est ça.
Voilà.
L'entrefilet, c'est dans Le Parisien. Est-ce que vous pouvez le lire, l'entrefilet ?
Roissy, un clandestin retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Le cadavre d'un passager clandestin, probablement mineur, candidat malheureux à l'immigration, a été retrouvé lundi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance du Cameroun, a-t-on appris de sources concordantes. Cet avion de la compagnie camerounaise Cam Air Co, en provenance de Yaoundé, s'est posé peu avant 9h sur l'aéroport parisien. Lors du contrôle visuel de l'appareil, on a remarqué la présence d'un homme plutôt jeune, de type africain, non identifié, qui était décédé dans le train d'atterrissage.
Dans le train d'atterrissage, indiquait une source judiciaire. L'une des hypothèses est qu'il est décédé de froid, a-t-elle ajouté. Une autopsie doit être réalisée mardi, selon une source proche de l'enquête, qui précise que la victime semble avoir 15 à 17 ans. Aucun document n'a été retrouvé sur le corps de l'adolescent. Cela faisait au moins 3 ans qu'un tel drame ne s'était pas produit à Roissy, selon une source aéroportuaire.
Benoît Hopkin, vous êtes journaliste au Monde. En avril 2013, début avril 2013, vous tombez sur cet entrefilet du Parisien. Pourquoi, à la lecture de ces quelques lignes, vous vous dites que ça mérite une enquête, un article ?
En fait, ça avait un petit goût de trop peu. Et j'avais envie, moi, de voir un peu la trame humaine qu'il y avait derrière ça. Ça, ce n'était qu'une sorte de brève, de rapport de police, quelque chose entre les deux en tout cas. Et moi, j'avais envie d'en savoir plus sur ce jeune homme qu'on avait retrouvé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appelé donc la police, j'ai appelé l'aéroport de Roissy, j'ai appelé un certain nombre de sources qui ont eu un petit peu de mal à me renseigner. Finalement, j'ai fini par savoir que Le jeune homme devait être enterré dans une des villes autour de Roissy. Donc j'ai commencé à appeler les différentes mairies. Ils ont tous joué le jeu, les services municipaux ont joué le jeu, ont été recherchés un peu dans leurs propres états civils. Ils n'ont rien trouvé. Jusqu'au moment où donc je suis arrivé à Mauregard. Et là, la personne, l'adjointe au maire m'a dit, ou la personne en tout cas des services civils m'a dit, ben je crois que c'est nous.
Dans nos registres d'état civil, nos habitants, ils décèdent plus chez eux, donc on a assez peu de décès sur Mauregard inscrits, enfin on a d'actes de décès de personnes décédées à Mauregard, d'habitants, on en a peu, alors qu'on en a toujours régulièrement de l'aéroport, comme des naissances d'ailleurs. Maintenant les gens naissent plus dans la commune, les gens qui sont nés à Mauregard, ce sont des gens qui naissent dans les avions, ce qui est assez surprenant.
Alors, expliquez-moi, c'est des parce inconnus. Que les pistes de Roissy sont à cheval sur plusieurs communes. Comment est-ce qu'on définit que, par exemple, que... ce jeune Camerounais, comme vous dites, appartient à Mauregard et pas à Tremblay en France ou Roissy en France?
C'est l'aérogare du bloc de l'avion. C'est l'aérogare où arrive l'avion qui compte. Et nous, on est un. Et T3. Donc, quand l'avion a pour bloc final... 1 ou T3, c'est pour nous.
Donc s'il y a un drame ou un heureux événement...
C'est pour nous. Ah, ben ça arrive. Malheureusement, il y a plus de décès que de naissances. Je pense qu'on a signé le certificat de décès, mais c'était inconnu. Donc on nous a dit, ben voilà, il y a un jeune homme qui est mort sur l'aéroport, il faut faire un acte de décès. Mais on n'avait pas de nom, donc tout ça, ça a été un peu flou pour nous. Le corps avait été transféré, je crois, à l'Institut médico-légal, et on n'avait pas de date d'inhumation, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à l'identifier.
Pendant toute mon enquête, j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai appelé l'ambassade du Cameroun, j'ai appelé l'ambassade de France à Yaoundé, j'ai appelé évidemment les gendarmes qui enquêtaient, et qui ont d'ailleurs... D'habitude, c'est souvent un peu compliqué. Ils ne veulent pas trop parler aux journalistes. Dans cette histoire-là, c'est pareil. J'ai eu les personnes qui s'occupaient de l'enquête et ils m'ont parlé assez librement, comme quelque chose qui les avait touchés aussi. Et malheureusement, eux aussi ont pas mal recherché des éléments. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est passé quasiment un mois entre le décès de la personne et puis son enterrement. Et en fait, j'aurais voulu en savoir plus. Malheureusement, j'ai fait chou blanc, quoi.
Vous êtes en relation avec le répondeur de 590. Désolé, cette messagerie est pleine et ne permet plus l'enregistrement de nouveaux messages.
Robert Wantobanfo, 2 ans et demi après les faits, j'ai contacté à mon tour le consul du Cameroun à Paris. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que ça vous étonne?
Alors, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Alors, il se passe que quoi? Il se passe que lorsque nous nous sommes rendus compte, le conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD que je dirige, que nous ne pouvions pas compter sur les autorités camerounaises pour pouvoir avancer dans l'enquête. Parce qu'il se passe quoi? Il se passe que après que l'Institut, n'est-ce pas, après que l'Institut qui était chargé, n'est-ce pas, de faire l'autopsie,
l'Institut médico-légal
de Paris, ait fait son travail, l'Institut médico-légal ne s'est arrêté qu'à un certain niveau parce que, à défaut, un individu qui n'a pas de nom, on a beau faire ce qu'on peut faire, mais les enquêtes se trouvent, on va dire, pour ne pas dire bloquées à un certain niveau, mais elles ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'elles peuvent donner. Alors donc, il était question pour nous, dans un premier temps, de solliciter l'image, la photo de ce jeune compatriote décédé, parce qu'il est mort, mais le corps quand même, sa dépouille, son corps est resté intact. Donc, partant de là, on a eu des images, l'Institut médico-légal de Paris a eu des images qui sont exploitables. Nous, on s'est dit, notre dernier recours, c'était ces images-là, afin qu'on puisse donc faire une recherche, des enquêtes, mener des enquêtes pour pouvoir retrouver la famille. Parce que, quelque part, il se passe que quoi? Il se passe que dans ce drame que nous avons connu, il y a une famille quelque part qui a aussi le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Il y a une famille quelque part qui a le droit de pouvoir faire son deuil. Mais cette famille-là ne sait même pas qu'elle a perdu un de ses enfants. Alors, pour nous, nous pensions qu'il fallait sensibiliser, n'est-ce pas, les personnes disposées à pouvoir nous donner un coup de main afin qu'ensemble, nous puissions exploiter les images. Bien sûr, sur autorisation du parquet, de Bobigny, puisqu'il est mort dans le 93 de Bobigny. Alors donc, on a sollicité l'ambassade pour qu'ensemble nous puissions mener cette démarche-là qui nous permettrait d'avoir l'image de ce garçon que par la suite nous publierons dans les journaux camerounais afin qu'une famille puisse identifier, reconnaître le corps de son enfant. L'ambassade n'a pas daigné répondre à notre sollicitation. Nous ne sommes pas découragés, non. Nous ne sommes pas découragés. Nous sommes allés au-devant de notre... C'est-à-dire qu'on a poursuivi notre démarche en écrivant au procureur, n'est-ce pas, général. On a écrit en date du 31 mai 2013. On a récidivé en 2014. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes sans réponse.
Cette histoire a intéressé beaucoup de monde et n'a intéressé personne, d'une certaine manière. C'est-à-dire que voilà, ça a ému tout le monde. Mais pas au point de tout faire pour trouver son nom, parce que je pense qu'en déployant des moyens financiers, en faisant des appels à témoins au Cameroun, en peut-être que si l'ambassade de France, sans vouloir être critiqué, avait peut-être essayé de faire des recherches de son côté, on aurait peut-être eu des éléments supplémentaires, savoir simplement où il avait embarqué, tout bêtement. Et voilà, il y a ce paradoxe un petit peu d'une histoire qui a touché beaucoup de monde, et qui en même temps a laissé un peu indifférent. Et je trouve que c'est assez assez remarquable et assez symptomatique un peu de l'histoire des migrants aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que ce sont des cas humains qui nous touchent, sans parler seulement du petit Elan, mais je pense que toutes les détresses qu'on voit touchent notre figure humaine au plus profond. Et en même temps, il y a un petit côté rationnel ou trop rationnel chez nous qui fait que ça en reste là et qu'on ne va pas aller au-delà. Quoi. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est peut-être un petit peu... Cette histoire est assez symbolique de notre regard sur les migrants. Quoi. Une certaine empathie et en même temps une certaine distance.
Question au journaliste et responsable aussi de la ligne éditoriale du Monde. Il y a quelque temps, la une du Monde, c'était la photo du petit Elan, donc ce petit garçon syrien, le nez dans la plage, mort, et hors champ, il y avait ses parents morts, donc ça fait la une plein pot du Monde. Pourquoi est-ce que cette histoire, en 2013, n'aurait pas pu faire la une du Monde ?
En journalisme, il y a des moments comme ça. Pourquoi cette photo d'Elan, alors qu'avant, il y avait plein d'autres petits enfants qui étaient morts, plein de photos qui étaient sorties, pourquoi celle-là a ému plus que les autres. Pourquoi l'histoire que j'ai racontée a ému plus que d'autres? Ça, j'avoue, c'est une part de mystère. Là, on n'est plus dans une question d'ordre journalistique. Je pense qu'on est dans la trame de l'âme humaine, quoi. Qu'est-ce qui fait que quelque chose réveille chez nous des sentiments enfouis, un besoin d'aider, un besoin de compatir? Voilà. Après, sur cette photo d'Elan, il y a eu un énorme débat, évidemment, dans la rédaction, parce qu'elle était d'une violence insoutenable. Donc fallait-il, ne fallait-il pas la passer? Donc on a décidé de la passer. Et de fait, ça a provoqué une vague d'émotions. Mais d'une certaine manière, on ne peut en tirer aucune fierté. Parce que ça veut dire qu'il faut une image à ce point dramatique pour aller chercher en nous quelque chose de notre humanité. Donc cette photo, au mieux, on peut la voir que comme un mal nécessaire.
C'est pas le tien. Essayiste et journaliste politique à fréquence pas et pluriel 106.3 à Paris. Ce qui s'est passé, c'est la partie visible d'iceberg de l'enfer camerounais, sauf que ça s'est produit à Paris. Voilà, un citoyen qui a disparu, personne ne s'en est occupé. C'est le voyage, le désespoir, Michel, désespoir. Je comprends, le gars, ça ne peut pas être pire ailleurs que dans mon propre pays. Même si on lui avait dit, attention, tu vas mourir, je crois qu'il n'aurait pas entendu. Je crois que le mot, c'est le voyage du désespoir, comme ceux qui sont là. Les images sont montrées partout dans le monde. La moitié de ce qui quitte le continent africain termine au fond de l'océan Sépulture. N'empêche que les gens veulent absolument partir. Rien que cette année, depuis janvier 2015, on parle de quelque chose. Des milliers d'Africains qui sont au fond de l'eau. On perd des générations comme ça, et demain on sera étonné que l'Afrique n'ait pas bougé en termes de développement. Ces enfants qui disparaissent dans le désert ou dans la mer, il y a là peut-être, j'allais dire, des génies, Einstein et quelques autres. On ne peut pas savoir.
Marion Blancard, est-ce que maintenant vous regardez l'actualité des réfugiés autrement ?
Forcément. Forcément, on regarde toujours. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose. On sait que de toute façon, toutes ces personnes qui quittent leur pays sont dans des solutions extrêmes. Tout le monde aime plus que tout son pays, sa famille, le lieu où il est né. Donc, quand les gens partent dans ces conditions-là, c'est que c'est invivable.
Est-ce qu'il y a eu un petit retentissement dans la vie de vos concitoyens, de ces 350 personnes qui vivent ici à Morgard, cet enterrement, ce geste que vous avez fait, comment ça a été vécu, comment on en a parlé ?
Je crois que les habitants de Morgard étaient fiers.
Est-ce que vous êtes assaillis de coups de fil ? Et racontez-moi comment vous avez vu la presse rebondir sur cette affaire.
Ça a été instantané, le lendemain. Le Monde, ça paraît le soir, donc je ne sais plus quel c'était un soir. Dès le lendemain matin, ou même je me demande si j'ai pas eu un coup de téléphone dès le soir, alors c'était le Parisien, le machin, le truc européen, etc. Et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas. Et puis, si vous regardez la presse de l'époque, et puis dès le lendemain matin sur Europe 1, oui, un jeune Camerounais était retrouvé, le pauvre, ça faisait un mois qu'il était mort. Enfin, c'était invraisemblable, quoi, invraisemblable. Bon, ça montre, comme ça. Comme ça. Et après, on a eu un déferlement de messages, sur la messagerie de la mairie, etc., etc., des lettres. Attendez, regarde-moi. Voyez, regardez. Sarah, c'est pas possible ça qu'on n'ait pas retrouvé
mais
cette
si,
boîte.
Mais si, elle l'a retrouvée. Ah, Marie-Hélène. Oui, et ben Marie-Hélène là.
Ah, alors vous pouvez me suivre.
Il était dans un placard non
identifié. Alors ça, c'était le bureau du maire, à l'origine.
Bon, alors, ça, c'est le dossier.
Voilà.
Alors, et la première lettre, c'est de quelle date ?
Je ne sais pas, ça, c'est des lettres, regardez. Le Secours catholique.
Qu'est-ce que ça dit, par
exemple ? Lu et vu dans Le Monde, du 3 mai 2013. Ah ben, c'était 3 mai. Votre souci d'enterrer ce jeune homme venu du Cameroun, dans la dignité et le souci du moindre détail si important, l'inscription sur le cercueil, entre autres. Que votre attitude nous redise que tout homme ou femme a droit à notre total respect, même dans la mort, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. À Calais, ou un village proche, il y a un carré pour les 8 clandestins déjà morts, faisant face aux côtes anglaises. Merci affectueusement, etc. Secours 4, parce que j'ai reçu des petites lettres plus... Saint-Chamond, le 20 mai. Madame le maire, permettez-moi de vous témoigner mon admiration pour le geste que vous avez accompli en offrant une sépulture à ce jeune Camerounais non identifié, qui par sa folle action a manifesté son espérance d'une vie meilleure. C'est un geste qui vous honore en tant qu'édile de votre commune, et en tant qu'être humain, car précisément vous avez ainsi respecté la dignité d'être humain de ce jeune homme. Enfin, j'ai l'intime conviction que cet inconnu sauve de Dieu a enfin trouvé la paix, en grande partie grâce à vous, par cet acte d'amour. Recevez, Madame le maire, mes respectueuses salutations. Oui, regardez toutes ces lettres. Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne. Je ne savais même pas que ça existe. J'ai lu avec tristesse l'article du Monde du 3 mai dernier consacré à l'élimination du jeune Camerounais. Je partage aussi votre préoccupation d'orner la pierre tombale d'une inscription plus chaleureuse qu'un matricule. En honorant ce mort, vous représentez là la générosité de toute la population de Morgard. Ce disparu dont personne ne sait rien, quelles étaient ses convictions religieuses, était-il croyant ? Était-il seulement croyant ? Quant aux Morgallois, leurs convictions sont diverses. C'est pourquoi il me semble qu'une inscription plus neutre que Inconnu sauf de Dieu, avancé par le journaliste, serait plus conforme à notre tradition laïque qui a valeur universelle. Ah, nouvel ops, hein ? Raphaël de Gubernatis. J'ai appris dans Le Monde la tragique destinée de ce jeune homme mort dans des circonstances désespérantes. Un drame qui arrache des larmes, mais j'ai été aussi ému par votre attitude et celle de vos collaborateurs.
La tragédie m'avait évidemment bouleversé. C'était tellement effrayant, c'était tellement bouleversant cette destinée si tragique. Et ce que je trouve terrible là-dedans aussi, c'est que ce garçon qui devait être exceptionnel, pour avoir eu tant de courage, tant de volonté, tant de force, il en est mort. L'autre chose qui m'avait évidemment bouleversé, c'est que il y avait eu des gens, justement, comme les gens dans cette municipalité, qui avaient été touchés par cette destinée, et qui, eux, ont fait, justement, ont célébré cette inhumation, et qui était une sorte de réponse pour montrer que l'homme peut être aussi beau et noble, évidemment. Fatalement, chacun est ému. Et ce qui est très beau aussi, malgré tout dans l'horreur, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont eu une aussi grande sensibilité que ces gens-là dans ce village et qui ont fait les choses avec tant de dignité. Je trouve ça profondément bouleversant.
Généralement, les corps sont identifiés et renvoyés à leur famille. Pas cette fois donc. Des renseignements, notamment des photographies, ont été fournis à l'ambassade du Cameroun et à l'attaché de sécurité de l'ambassade de France à Yaoundé. La semaine dernière, une mère camerounaise a bien signalé la disparition d'un fils. Mais ce n'était pas la bonne personne. Les recherches poursuivent, mais peuvent être longues. En attendant, le permis d'inhumer a été délivré par le parquet des mineurs de Bobigny. Mais où exactement? Personne ne peut nous renseigner à l'aéroport de Paris. L'emprise de Charles de Gaulle couvre plusieurs communes. Selon la piste ou le terminal, la responsabilité administrative varie. On contacte la mairie de Roissy. Non. Du Tremblay en France. Non. De Gonesse. Non. Du Ménil-Amelot. Non. De Mauregard enfin. C'est bien ici. Les quatre employés des pompes funèbres de Goussainville ont ensuite mis le cercueil en terre. Sur la bière était vissée une plaque en cuivre où il était écrit X masculin numéro 13/0824 et une seule date, 2013. Trois fossoyeurs ont rebouché le trou.
Benoît Hopquin, dans le cimetière, est-ce que vous êtes journaliste ou est-ce que c'est l'homme qui fait face à un autre homme qui a fini sa vie?
Je pense que dès que je lis la brève dans Le Parisien, c'est évident que c'est un peu le journaliste, donc un peu curieux, mais aussi c'est un peu l'être humain, quoi, qui trouvait que cette sécheresse-là était juste insupportable. On ne pouvait pas se dire que quelqu'un avait été retrouvé dans un train d'atterrissage et que ce quelqu'un resterait à jamais inconnu. Vous savez, il y a un très beau livre de Jules Romain qui s'appelle « Mort de quelqu'un » et qui raconte comme ça l'enterrement d'un anonyme. Et j'y ai pensé à ce moment-là quand il y a eu cette histoire. Voilà, je me suis dit « mort de quelqu'un, ça peut pas rester quelqu'un ». Ce qui est certain, c'est qu'au cimetière, j'étais un peu les deux, forcément, quoi, puisque d'abord, on n'était pas très nombreux. Et puis, de fait, je faisais partie de l'assistance. Et Artignan aussi, d'ailleurs, c'était pareil, il faisait ses photos, mais à un moment, j'ai bien vu, il a arrêté, et puis il est venu aussi se mettre dans la petite foule, ce qu'on peut appeler ça une petite foule. Enfin, les gens des pompes funèbres aussi, ils étaient dans un autre rôle, ils voyaient bien, il y avait quelque chose d'un peu différent aussi dans l'air. Voilà, ils étaient aussi un peu employés, et en même temps un peu aussi participants à cette cérémonie. Il y avait quelque chose d'un peu... un peu surréel dans tout ça, parce qu'il y avait ce bonhomme, on ne peut pas appeler ça autrement, parce qu'il avait entre 15 et 17 ans, on sait qu'il fait 1m75, on ne sait pas beaucoup plus, qui était là dans ce cercueil, qui était plutôt un beau cercueil, d'ailleurs la mairie n'avait pas mégoté, ils avaient fait quelque chose de très correct. Et puis il y avait ces gens qui étaient autour, les ouvriers, les gens des pompes funèbres, deux journalistes, et puis voilà, deux personnes, trois personnes de la mairie. Et il y avait quelque chose d'un peu étonnant avec ces avions qui passaient au-dessus. Et voilà, ça faisait quelque chose d'un peu surréaliste, d'autant qu'il était évidemment venu par un de ces avions, puisque c'était sur une de ces pistes, probablement dans un de ces avions, qu'il était mort de froid.
En date du 16 mai 2013, le Conseil des Camerounais de la diaspora écrivait une lettre à Madame le maire de Mauregard, à l'adresse 12 rue de la Grande Allée, 77 990 Mauregard. Et donc, cette lettre stipulait exactement ceci. Madame le maire, au nom des droits de l'homme et de la fraternité, valeurs fondamentales qui, entre autres, régissent la société et la République dont vous êtes une illustre représentante, vous avez laissé transparaître au grand jour l'humanisme qui habite vos administrés et vous-même. Veuillez, Madame le maire, recevoir toute la sincère gratitude exprimée par le Conseil des Camerounais de la diaspora, CCD. On a pensé en tant que compatriote qu'il fallait au moins, bon ben, il est mort, c'est vrai, il a été inhumé à la sauvette, mais n'empêche, étant donné que c'est un être humain et que tout être humain a droit, n'est-ce pas, à un minimum de dignité, on a pensé donc en tant que la communauté camerounaise, la diaspora camerounaise, qu'il fallait rapidement s'organiser pour aller, n'est-ce pas, se recueillir et lui rendre les hommages, les derniers hommages que tout être humain mérite.
Je suis le pasteur Joseph, c'est mon nom d'alliance, le pasteur Joseph de la cellule française de la venue de Jésus-Christ. Donc à ce titre, je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ.
Donc vous êtes pasteur camerounais ici en région parisienne.
Absolument.
Et vous avez participé à la cérémonie d'hommage aux jeunes camerounais inhumés à Mauregard le 30 avril 2013. Racontez-moi comment vous avez co-célébré cette cérémonie.
Ce jeune homme qui est décédé en 2013 est mort dans des circonstances particulières. Puisque comme vous le savez, il est mort, je dirais, sans père, sans mère. Donc nous sommes venus, nous ne savions pas qui il était, nous ne savions pas s'il est de confession chrétienne, nous ne savions pas s'il est musulman, nous ne savions pas s'il est catholique ou d'autres. Alors, ces Camerounais ont demandé à trois obédiences, les catholiques, les protestants, les musulmans, un imam de venir manifester la présence de Dieu. Parce que nous sommes venus manifester la présence de Dieu pour cet enfant. Là, c'était l'occasion, une occasion plutôt triste. Un enfant est mort. Cela aurait pu être votre enfant, cela aurait pu être le mien. Il fallait que nous soyons là pour montrer que Dieu est toujours présent, même dans des circonstances particulières.
Est-ce que vous vous rappelez les mots que vous avez choisis, vous, pasteur, pour honorer cet enfant ?
J'ai appelé notre Dieu. Je lui ai dit, Père, c'est toi-même qui connais les tenants et les aboutissants des choses. C'est toi-même qui connais le destin de chacun. Oui, cet enfant est mort aujourd'hui. Toi, tu savais que l'œuvre à laquelle tu l'as appelé sur cette terre est arrivée à son terme. Il est là, il est parti. Ensuite, j'ai parlé du mot de guerrier. Guerrier, parce que cet enfant est parti, pas pour faire la guerre des armes, mais parce qu'il a faim. Il avait faim là où il était au Cameroun. Ses parents étaient certainement dans la misère. Ils sont certainement dans la misère. Il avait faim. Il est parti comme un guerrier, sans les armes. Dans toute son innocence, il est parti. Dans toute l'ignorance et l'innocence, il est monté sur le train d'atterrissage d'un avion. Et c'est dans cette innocence qu'il est mort. Et dans cette innocence, lui qui croyait que le monde allait l'accueillir, il est symptomatique ce drame. C'est un symptôme. Tendons la main à ceux-là qui sont dans le dénuement, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'avenir. C'est ça le drame. Ce drame préfigure le manque d'avenir. Oui, les enfants sont prêts à mourir parce qu'ils n'ont pas de perspective.
Pasteur Augustin, est-ce que après cette célébration, ce moment a continué à vivre en vous ? Est-ce que peut-être dans cette église ici, à Villeneuve-le-Roi, où vous officiez, vous avez prêché, vous avez parlé aussi de cet événement à vos fidèles ?
Mais c'est un événement que nous vivons tous les jours. Nous le vivons tous les jours, nous en parlons tous les jours. Quand je dis événement, c'est-à-dire que tous les jours nous prêchons, nous demandons à nos fidèles, soyez amour, pensez à l'autre, pensez à l'autre. C'est un événement qui nous marque, qui est en permanence dans nos âmes. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu, Jésus-Christ qui est venu sur terre, il est venu pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Les compassions. Nous prêchons en permanence. Nous prêchons l'amour. L'amour et l'amour et l'amour. S'il y avait cet amour, quelqu'un aurait dit à cet enfant, non, non, ne pars pas. Ne pars pas. Ne prends pas ce risque-là. Pensons à notre jeunesse. Cet enfant qui est mort, personne n'a laissé l'occuper. Ni le gouvernement camerounais. Ça, je n'incrimine pas, hein, mais je veux dire... Certes, il n'avait pas d'identité. Comme tous les migrants aujourd'hui.
Mais il réside aujourd'hui dans un cimetière à Montregard, à côté des pistes de Roissy, loin de sa mère patrie.
Voilà. Sans terre. Si tout le monde s'était réuni, nous serions... Cet enfant, on aurait retrouvé ses parents. Je ne suis même pas certain qu'aujourd'hui, ses parents encore savent où il est. Ses parents certainement pleurent encore. Ils pleurent de l'inconnu. Ils ne savent même pas que leur... Ils ne savent pas s'il est vivant, s'il est mort. Puisqu'à l'instant où nous parlons, on ne sait toujours pas qui est cet enfant. Ses parents ne savent toujours pas où il est. Il réside dans un cimetière français. Ses parents sont au Cameroun. On ne sait toujours pas. C'est dur. C'est insupportable de savoir que non seulement cet enfant a vécu dans l'abandon total, la misère totale, et même jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, il est toujours dans l'abandon. C'est insupportable. C'est insupportable. De même qu'aujourd'hui, tous ces gens qui meurent dans la mer, ils ont vécu dans l'abandon, on les abandonne. Et aujourd'hui encore, il meurt dans l'abandon. C'est insupportable.
Vous êtes croyante, Marion Blanca ?
Oui. Pas très pratiquante, mais croyante.
Donc c'est un geste d'humanité, c'est un geste chrétien aussi, d'enterrer un inconnu qui cherche la vie meilleure ici ?
Non, mais c'est naturel. Enfin, je veux dire, il faut pas aller chercher des raisons philosophiques. Enfin, je sais pas, c'est spontané, non ? Enfin, je trouve.
Vous citiez le cas d'indigents de SDF qui sont malheureusement enterrés dans un carré, dans une fosse commune à Thiers, par exemple, où là, il n'y a pas de tombe. On les différencie pas, on les met ensemble.
Oui, mais à Morgard, on est un petit village, donc on n'a jamais enterré qui que ce soit en faisant un trou et comme un chien, quoi. Enfin, c'est pas possible.
Mort de quelqu'un. Retour sur le décès oublié d'un jeune migrant. Avec le journaliste du Monde Benoît Hopquin et Raphaël de Gubernatis de l'Obs, le photographe Patrick Artignan, la maire de Montregard, Marion Blancard, Christian Perchat, ancien directeur commercial de la compagnie La Camerco, Robert Wafowanto, président du Conseil des Camerounais de la Diaspora, et le pasteur Augustin Adémé. Sur les docks, attachés de production Christine Bernard et Alison Sinard, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.